Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de l'Apocalypse. Ceux qui ont suivi toutes nos émissions précédentes sur l'Apocalypse se souviendront que dans le livre de l'Apocalypse, nous avons trois séries de sept. Il y a d'abord sept sceaux qui scellent un livre dans la main de Jésus, l'agneau. Lorsque les sceaux sont rompus, l'apôtre Jean voit en vision les persécutions de l'Église aux mains des empereurs romains. Mais Dieu promet aux chrétiens persécutés qu'il ne permettra pas à leurs ennemis de maltraiter impunément son peuple. Le Tout-Puissant viendra à leur secours. Le septième sceau révèle sept trompettes. Lorsque chaque trompette est sonnée, un malheur frappe l'Empire romain pour l'appeler à la repentance. Mais les ennemis de l'Église s'endurcissent au lieu de se repentir. Ainsi, la septième trompette va révéler sept coupes remplies de la colère de Dieu à déverser sur l'Empire méchant. Mais avant que ces coupes ne soient montrées, une longue parenthèse a précisé la vraie nature du conflit et identifié les forces qui s'opposaient les unes aux autres. L'Empire romain n'était pas seul dans son effort de détruire le christianisme. En fait, c'est Satan, représenté dans la vision par un dragon énorme qui donnait son pouvoir à l'Empire et se servait de l'Empire dans sa guerre avec Dieu. Mais l'Église aussi était plus que ce qu'on aurait conclu en tenant compte des simples apparences. Aux yeux des hommes, ce n'était qu'une secte persécutée, sans armes, sans une grande multitude de partisans, sans soutien dans la société, sans force particulière. Mais les chrétiens n'étaient pas seuls. Leur chef, le véritable roi des rois et seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, présidait à ce conflit et mettrait fin à leurs ennemis pour toujours. Comme nous venons de le dire, dans la vision des trompettes, Dieu envoie sur l'Empire romain des châtiments partiels qui laissent aux méchants la possibilité de la repentance et du salut. La justice de Dieu est associée à la miséricorde. L'Empire n'ayant pas profité du temps de la grâce, ce dernier septénaire représente la destruction totale de Rome. Selon chapitre 15, verset 1, ces fléaux sont les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. De même que les séries de sceaux et de trompettes, celle des sept coupes est précédée d'une vision du ciel. Cette scène a la même fonction que les autres. Dire aux saints que les événements sur le point d'être révélés sont ordonnés par Dieu lui-même, celui qui dirige l'histoire selon sa justice et sa sainteté. Jean écrit : « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux. Ce sont les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été révélés. » Apocalypse 15, versets 1 à 4. Jean voit d'abord sept anges qui tiennent les dernières plaies de l'Apocalypse. Quand ils auront versé ces coupes, l'Empire méchant sera entièrement renversé. mais j'en vois également tous ceux qui étaient morts dans la fidélité au Christ face à la persécution de la bête romaine. Ils sont debout sur la mer de verre. Devant le temple juif se trouvait une mer de fonte qui servait à la purification des prêtres qui devaient entrer dans le lieu saint. De même, il faut passer par cette mer céleste pour s'approcher de la présence de Dieu. Que la mer soit mêlée de feu représente peut-être les tribulations par lesquelles les chrétiens passent. Plusieurs passages soulignent les bienfaits spirituels que la souffrance peut produire. La maturité spirituelle, la sainteté et une connaissance plus profonde du Christ. Selon Hébreux 5, versets 7 à 9, même Jésus a été élevé à la perfection parce qu'il a souffert. Les saints tiennent des harpes, comme l'autel, la mer, les encensoirs, l'arche et d'autres éléments des visions célestes de l'Apocalypse, les harpes appartenaient au culte rendu à Dieu selon le système lévitique de l'Ancien Testament. Qu'elles soient mentionnées ici ne soutient pas leur emploi dans l'adoration de l'Église, de même que les références aux chandeliers, autels, robes, encens, temples, etc., ne doivent pas nous pousser à restaurer ces aspects de la loi de Moïse. Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Verset 3. Moïse et Jésus sont les deux grands libérateurs de l'histoire biblique. Moïse a conduit les Israélites dans un cantique après leur passage miraculeux de la mer Rouge et la destruction des oppresseurs égyptiens. Ce cantique avait pour thème la puissance de l'Éternel et la grandeur de la délivrance qu'il accorda à son peuple. Exode 15, versets 1 à 19. Le cantique de l'agneau, celui qui délivre Israël spirituel de son ennemi, doit avoir le même thème. La partie du cantique que Jean écrivit dans l'Apocalypse loue la justice des œuvres de Dieu. En disant « Car seul tu es saint ». Les chrétiens déclarent de nouveau l'honneur dont l'Éternel est digne. Les prétentions ridicules des empereurs à la royauté divine n'ont rien à voir avec l'incomparable grandeur du roi des nations. Les saints chantent « Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ceci ne signifie pas leur conversion au christianisme. C'est plutôt que l'exécution des jugements de Dieu contraindra les nations, qu'elles le veuillent ou pas, à reconnaître la puissance du Seigneur. Le cantique de Moïse dit qu'en apprenant les prodiges opérés par Dieu en Égypte, les peuples de Canaan ont défailli et tremblé de peur. Exode 15, versets 14 à 16. Ils ne se sont pas pour autant repentis de leur iniquité pour servir le seul vrai Dieu. Nous reprenons la lecture au verset 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Vous avez peut-être remarqué dans cette lecture que les sept anges des plaies sortent du temple. Ceci souligne que les chrétiens devaient voir dans la chute de Rome un jugement de Dieu lui-même, et non pas un hasard ou un accident de l'histoire. Les récipients de la colère de Dieu sont des coupes d'or, et ils sont remis aux anges par l'un des quatre êtres vivants, c'est-à-dire les chérubins, qui font respecter la sainteté de Dieu. En effet, la colère de Dieu est aussi pure que son amour. Elle n'est pas capricieuse comme celle des hommes. Elle est en conformité avec sa sainteté. Et elle est manifestée quand les avertissements et les appels à la repentance ont été en vain. La fumée remplit le temple jusqu'à l'accomplissement des fléaux. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait parfois dans la fumée pour faire sentir sa gloire et sa sainteté. Elle rendait souvent inaccessible aux hommes l'endroit où elle se manifestait. Ainsi, dans ce cas précis, personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Aucune intervention de dernière heure ne peut arrêter le cours du jugement. Le temps de la repentance est passé. La plupart de l'Apocalypse concerne un jugement qui a déjà eu lieu, le jugement de l'Empire romain, persécuteur de l'Église de Dieu. Avant de terminer le livre, nous verrons qu'il contient également des avertissements concernant un jugement qui est encore à venir, celui dont Jésus et ses apôtres ont souvent parlé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Acte 17, versets 30 et 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, versets 31 et 32. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, versets 10 et 11. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Jusqu'à présent, Dieu vous a fait grâce. Il vous a donné l'occasion de vous repentir et d'obéir à l'évangile de Christ. Pierre nous dit en 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Au contraire, il veut que tous arrivent à la repentance. » Le jour du jugement est certain, et il arrive pour chacun de nous. Quand Dieu punira les hommes qui se sont rebellés contre ses saintes lois, personne ne pourra protester qu'il est injuste. Mais Dieu ne prend pas plaisir à châtier. Il aime exercer la miséricorde. En nous appelant tous à la repentance, c'est afin de pouvoir nous offrir cette miséricorde, cette grâce que Jésus a rendue possible. N'endurcissez pas votre cœur. Obéissez à l'Évangile avant qu'il ne soit trop tard.
Gloire à Dieu.